Bonjour à tous. Bonjour Cécile.
Bonjour Otman.
Bienvenue dans Homme de Méninge.
Merci.
Alors Cécile, si on t'a invité aujourd'hui dans le podcast, c'est pour parler de ton métier. Un métier original qui draine avec lui un imaginaire un peu féerique, avec une légère touche anachronique qui lui confère une indéniable poésie. En effet, Cécile, tu es lectrice publique.
C'est ça.
Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs, nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a guidée vers la lecture publique ?
Eh bien, tout a commencé par une émission de radio France, sur France Inter, il me semble, dans les années 96-97, je ne sais plus bien, où j'ai entendu un monsieur qui s'appelait Marc Roger et qui était lecteur public. Et c'était la première fois que j'entendais ce nom, ce métier, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et vraiment, à l'écouter dans son entretien, je me suis dit, mais ça a fait un tilt dans ma tête, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Je ne savais pas que ça existait. C'est un très vieux métier.
Hein. Il lisait ou il parlait de son métier ?
Il parlait de son métier.
D'accord.
Voilà. Je ne savais pas que, voilà, il était parti faire un tour de France à l'époque, donc avec son bâton et ses livres, et il passait dans les écoles. Enfin, voilà, il était invité dans différents endroits, sur des places de village, etc. Et moi, qui adore vagabonder aussi, je trouvais original l'idée de partir au devant d'un public avec des livres. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et comment, du coup, tu en arrivais à en faire un métier, entre le découvrir comme ça sur
Alors,
Radio
j'ai contacté
France
Marc Roger, déjà.
D'accord.
Je me suis permise de l'appeler. Et ce monsieur, à l'époque, m'a dit « Ah, mais c'est un métier merveilleux. Fonce, Cécile !» Alors là, c'est tout ce qu'il fallait me dire.
D'accord.
Donc, oui. Alors là, a commencé quand même une certaine galère. Hein. Faut être honnête. Hein. Je suis partie avec mon enthousiasme et j'ai frappé à plusieurs portes. Et effectivement, on me disait, c'est un projet vraiment original, c'est génial. Mais voilà, la porte se refermait et j'avais pas suite. Et puis jusqu'au jour où, à force de rencontrer, etc. Voilà, j'avais créé une association quand même à l'époque pour pas être seule. Et voilà, j'ai quand même fini au théâtre d'Annecy. On a été pris pour des lectures lors du cadre des livres comment ça s'appelait ? Je ne sais plus, un festival, excusez-moi, j'ai un trou. Mais, et voilà, et en fait, ben voilà, ça a été vraiment des lancements. Et ça, c'était vraiment au côté, on va dire, spectacle. Mais après, ou avant, je lisais quand même dans des maisons de retraite, auprès des enfants. Je travaillais sur des projets pédagogiques, en fait, avec des enseignants. Après, le panel a été... Et après, j'ai déménagé. Moi, je suis partie dans une autre région. Et j'ai eu la chance aussi d'être connue par d'autres personnes et de travailler pour des musées, par exemple.
D'accord.
De prêter ma voix à des témoignages. À vraiment, ouais, voilà, c'était vraiment très, très chouette aussi et enrichissant de ce côté-là, ce que je n'avais jamais fait.
Quand tu as parlé d'une association que tu as montée, c'est une association avec d'autres lecteurs publics ?
Une autre, on n'était que deux.
D'accord.
On n'était que deux, hein, vraiment, parce que franchement, à l'époque, c'était une dame qui était bibliothécaire, qui lisait à voix haute, mais comme ça, pour son bon plaisir, et qui a trouvé l'idée aussi vraiment géniale, quoi.
D'accord.
De se lancer avec moi.
Une question que je me pose par rapport à ce métier, c'est au quotidien, est-ce que tu es amené à consacrer plus de temps à la lecture, donc grosso modo à la recherche de textes inspirants, ou plutôt à l'interprétation, un peu comme un musicien qui répéterait ses gammes? Et pour compléter cette question, est-ce que tu penses qu'un texte sublime peut toucher les gens, peu importe l'interprétation, et à contrario, qu'il est possible d'émouvoir même avec un texte banal, mais merveilleusement interprété?
Alors, ta question, elle est super vaste et super longue. Tu vas me reprendre parce que je peux m'éloigner.
Donc, au quotidien.
Voilà. D'abord, bon, je suis une fan de lecture. Hein. Ça, premièrement, en lecture silencieuse, d'abord, pour moi-même. Mais je ne peux jamais lire sans avoir l'arrière-pensée de trouver un extrait ou de trouver quelque chose qui peut attirer toute mon âme à moi déjà, et un public futur. Et donc, voilà, il y a déjà ce côté-là. Et ensuite, une fois qu'un texte est choisi pour le donner à lire à voix haute, il y a un sacré travail. Parce que ben voilà, je m'entraîne beaucoup en fait à la maison après à travailler sur ce texte. Et comme tu dis, un musicien qui travaille ses gammes, eh bien c'est la même chose, hein, effectivement. Je travaille les mots, je travaille la voix, les intonations. Oui.
Est-ce que c'est des textes que tu finis par maîtriser par cœur ?
Pas du tout.
Non.
J'ai une très mauvaise mémoire.
D'accord.
C'est bien pour ça d'ailleurs que je ne suis pas conteuse. Parce que ici, depuis que je suis en Bretagne, on me dit toujours « mais tu es conteuse ». Non, non, je suis lectrice, donc j'ai toujours le support du texte. Et c'est vraiment l'idée de prêter voix à un texte écrit. On est bien d'accord, quoi, voilà, sur ce. Enfin, pour moi, c'est très important, ça. Et donc, non, je ne le connais pas par cœur. Et même si vraiment il est imprégné dans ma tête, de toute façon, j'ai toujours le support d'accord. du livre avec moi.
Est-ce que tu fais par exemple des recherches sur l'auteur pour éventuellement mieux le comprendre, mieux le cerner, pour savoir comment tu vas l'interpréter, ou c'est ton interprétation personnelle ?
Non, complètement. Alors, c'est pas par rapport à l'interprétation, c'est d'abord par la... Je suis très curieuse. Mm-hmm. Donc, je suis très curieuse. Donc, quelqu'un qui va écrire un certain texte, qui va m'émouvoir, je vais aller voir qui est cette plume, mm-hmm. cet homme ou cette femme. Bien sûr, je vais faire des recherches. Après, pour... Oui, c'est un peu un piège, ça. Ça pourrait être, justement. Dernièrement, je travaille sur les textes d'Angèle Vanier. Et en fait, elle était... Alors, elle ne se disait pas lectrice publique parce qu'elle était aveugle. Elle était récitante, ce qu'on disait à l'époque. Hein. Et donc, elle était récitante sur France Culture. Elle avait des émissions, etc. Et j'ai voulu essayer d'écouter comment elle donnait ses propres textes pour voir si j'étais dans sa lignée. Et en fait, je me suis dit, bon, alors, merci Google, il n'a absolument rien trouvé à cet égard. Je n'ai pas trouvé d'enregistrement ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, ben, de toute façon, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je travaille. C'est toi, aujourd'hui, Cécile, avec ce que tu es, tu as donné un texte comme d'accord. tu l'as ressenti. Voilà.
Ok.
Voilà.
Et du coup, on en arrive à la deuxième partie de la question. est-ce que tu penses qu'un texte merveilleux peut t'émouvoir, peu importe l'interprétation, et s'il est possible, quand on est très doué, de même un texte banal, d'émouvoir des gens avec un texte finalement banal ?
Moi, je me suis surprise à écouter des textes qui, franchement, étaient tout à fait banals, mais vraiment... Mais alors, portés par une voix exceptionnelle, une personne en scène, on va dire en scène quand même, exceptionnelle, m'a porté complètement. Alors que le texte, au fond, il est tout à fait ordinaire, mais vraiment, voilà. Mais la voix, le... Voilà.
D'accord. Donc un lecteur de talent arrive à transcender le texte.
Je pense.
Ok. Avec quel support t'es la plus à l'aise ? Tu préfères lire de la poésie, de la prose, des romans, des récits historiques ?
Alors en fait c'est original, elle est pas mal ta question, parce que moi sur le plan personnel j'aime beaucoup lire par exemple des essais, mais en fait j'ai jamais réussi à porter à voix haute un extrait d'essai. D'accord. J'ai l'impression que c'est vraiment très personnel. Ça, c'est à moi, ça.
D'accord.
Par contre, donc, je lis beaucoup, beaucoup de romans. Et oui, là, par contre, je suis très à l'aise. Alors, c'est un travail, parce qu'il faut trouver les extraits, bien précisément, parce que tu ne vas pas lire. Faut le choisir, l'extrait qui parle au public. Hein. Donc ça, là, je suis assez à l'aise. Et puis dernièrement, dans le cadre du travail que je fais là sur une nouvelle lecture publique à propos des femmes de Bretagne, des femmes de lettres, je découvre la poésie.
C'est récent ?
Oui, c'est récent. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Lors du printemps des poètes. Et donc, m'a été commandé de lire justement quelques extraits de poésie, de lettres de femmes. Et waouh, quoi. Ça a été... Ouais, je dis waouh parce que ça a été une révélation.
D'accord.
Et je pensais pas que j'étais capable, sans me lancer de fleurs, mais... Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sorti, quoi. Enfin, ouais. Et en ce moment, je suis à fond sur la poésie, quoi.
D'accord. Et jusque-là, tu lisais beaucoup d'extraits de romans.
Oui.
C'était surtout ça.
Ouais. Et puis des albums jeunesse pour les enfants.
D'accord.
Voilà, parce que je lis aussi beaucoup pour les enfants. Mais c'était, oui, essentiellement des extraits de romans parce que j'avais envie de faire découvrir des plumes à des publics, quoi.
D'accord. Tu vois, peux me donner un exemple de roman éventuellement que tu as lu ?
Là, c'est le bleu. C'est la colle. Carole Martinez, par exemple, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, mais qui n'est pas facile déjà en lecture silencieuse, mais que j'ai tellement envie d'inviter les gens à la découvrir que oui, j'ai réussi à trouver des extraits, tu vois, qui pouvaient être parlants ou qui, pour d'autres, se sont dit « Waouh, elle est tellement... elle est inatteignable pour moi, j'ai entendu de tout à cette suite de lecture. » Mais oui, comme ça. Oui, là, c'est une colle parce que.
Non, tu ne serais pas sorti. au début de l'entretien, tu nous as parlé d'un festival à Annecy auquel tu avais participé, qui était une forme de le début de ta carrière.
Oui.
Et justement, ma question suivante, elle a un peu un rapport avec ça. Est-ce que tu fais le parallèle, toi, entre la lecture publique et l'interprétation théâtrale ou la comédie de manière générale ?
Alors, c'est vrai que un lecteur public n'est pas un comédien. Un lecteur public n'est pas un acteur. On ne met pas en scène, en fait, son corps, son propre corps, parce que c'est ça, en fait. Un acteur, qu'est-ce que c'est, un comédien ? C'est quelqu'un qui se met en scène, corps, voix, ok, mais surtout le corps. Et nous, les lecteurs publics, c'est pas du tout ça. C'est juste la voix qui est... Redis-moi, c'était quoi déjà ta question ?
Est-ce que tu fais le parallèle entre la lecture publique, l'interprétation théâtrale et la comédie de manière un peu générale ?
Il y a la voix derrière tout ça, mais non, en fait, c'est une branche quand même hyper différente, la lecture publique. Hyper différente. Et je veux être... je suis peut-être... chiante là-dessus, mais je veux vraiment parler de lecteur public et non de comédien. Je t'explique pourquoi. Quand je me présente, moi-même et mes spectacles, on me dit « Ah, mais vous êtes comédienne !» Mais non, je ne suis pas comédienne. Je revendique haut et fort, je suis lectrice publique. Et vraiment, c'est quelque chose... Et à tort, certainement, on me dit « Oui, mais tu te dirais comédienne, tu verrais, tu aurais vachement plus de travail !»
Tu penses vraiment ?
Ah, mais bien sûr, effectivement. Moi, je ne suis pas comédienne, j'ai pas fait d'école et puis j'ai pas envie d'être comédienne. C'est pas ça du tout mon truc, c'est pas ça, mais pas du tout. Je suis d'abord lectrice mais silencieuse. Je suis une passionnée de littérature. Les livres, je les dévore, j'en lis un par jour. Alors qu'un comédien, un comédien, il peut très bien lire aussi. Attention, je ne dis pas, il peut très bien mettre en voix. Mais il va le faire. J'ai entendu que quand ils sont invités dans des médiathèques, souvent ils lisent l'extrait donné, mais ils connaissent rien de l'auteur ou du livre. Alors que personnellement, je trouve que le lecteur, il s'investit dans le livre entièrement. Quand même, il y bat juste. Il y a un tout. C'est un passionné du livre. Voilà.
On en revient à tout le travail de l'ombre qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la recherche sur l'auteur, la lecture, comme tu disais, de la totalité du roman, avant de choisir des extraits, pas simplement d'arriver le jour J.
Donc
oui, c'est pour ça
qu'on est vraiment des passionnés. Pour moi, tous les lecteurs et lectrices sont des passionnés de littérature, tout d'abord.
D'accord. C'est la condition sine qua non.
Je pense. Et après, l'envie de partager. C'est ça, en fait, la lecture publique. C'est l'envie de partager, de donner envie de lire ou de donner envie de découvrir un auteur ou de redécouvrir. Puisque là, moi, par exemple, je suis vraiment dans un autre siècle. Mais justement, des personnes qui ont été complètement oubliées et j'ai envie de leur redonner voix, tout simplement.
Est-ce qu'il t'arrive de lire une œuvre complète ? Donc, tu disais que tu intervenais, par exemple, dans les maisons de retraite. Est-ce que, tu vas venir 4 jours d'affilée
non.
Ou...
non, j'ai jamais... Non, non.
C'est des extraits.
Non. Puis quand ils ont Alzheimer, déjà... Non, mais parce que ça m'est arrivé. Ils sont pas tous Alzheimer, mais... Mais non. Je l'ai jamais fait.
D'accord. C'est quelque chose que tu...
J'aimerais bien, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ouais.
Ok. On en revient à, au texte. Si tu devais n'interpréter qu'un seul texte, celui, tu sais que la question est difficile, mais je te la pose quand même, celui que tu trouves peut-être le plus touchant ou peut-être le plus impactant pour un auditoire, ce serait lequel? Et si tu pouvais nous en lire un passage, ce serait absolument génial.
Alors là, c'est vraiment encore une colle. T'as le don. alors évidemment, c'est dur. Un passage, un livre. Quand on lit autant de livres. Alors en fait, j'avais pensé comme ça. Là, je me dis, il y a Rilke, que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Qui est l'être à un jeune poète. Mm-hmm. Voilà. Mais il y a aussi les albums jeunesse, en fait. Et okay. Je me dis que, ben oui, peut-être ce serait chouette de lire un petit extrait.
Tu as carte blanche.
Ben merci, mais c'est vrai que c'est compliqué là, hein, de faire un choix. Ben alors, je vais vous lire un petit extrait de « Et tu riras », qui est un album jeunesse écrit par Situ et illustré par Marianne Pasquet, et qui a été édité aux éditions Pour penser à l'endroit. Je lis juste un petit extrait, hein, c'est ça, c'est une petite invitation. J'ai très envie d'être une vieille dame. J'ai 9 ans et, quand j'y pense sérieusement, j'ai très envie d'être une vieille dame. Oh, pas une vieille dame qui reste toute la journée à la fenêtre de son appartement, non! Mais une vieille dame sur un banc, qui papote, qui tricote, qui est entourée de petits-enfants, de gros pigeons ou de vieilles dames comme elle qui sentent très bon. Je l'ai dit déjà à Amélie, pour mon envie. Amélie, c'est ma meilleure amie. Elle m'a dit que j'étais rigolote avec ma drôle d'envie. Elle m'a dit que les vieilles dames, elles s'en méfient. J'ai bien ri. À ma mère aussi, je lui ai dit pour mon envie. Oh, elle n'a pas compris. Tu n'es pas heureuse ? Qu'elle m'a demandé. Tu veux déjà finir ta vie ? Mais non ! J'ai répondu, je trouve simplement qu'être une vieille dame, c'est très tentant. Ça ne fait pas de bruit, ça prend son temps. C'est tendre à souhait, c'est plein de souvenirs et de talents. Et puis surtout, 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 les moindres choses, ça apprécie. Ma mère n'a pas compris. Voilà, super. Un petit extrait.
Super.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que tu voulais nous lire Rilke ou non? Ou tu préférais juste rester sur ça?
Oui, bah, je vais rester sur ça. Oui.
Allez, très bien. Tout à l'heure, tu nous as parlé du coup, des maisons de retraite dans lesquelles tu interviens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement tes interventions publiques? Est-ce que tu interviens aussi dans des bibliothèques? Et comment se passent concrètement tes interventions? Alors, par exemple, combien de textes tu vas lire lors d'une intervention? Et est-ce que tu interviens toute seule? Ou est-ce que tu arrives d'être accompagné peut-être d'autres lecteurs, mais aussi peut-être d'autres artistes, des musiciens, peut-être des danseurs, je ne sais pas.
Alors, la lecture, elle a un essor aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, grâce aux comédiens par ailleurs, puisque ce sont des grandes voix qui s'y prêtent et du coup qui font redécouvrir la lecture, mais non. Mais en fait, j'ai découvert quand même en revenant en Bretagne que c'était pas si évident que ça. Parce que comme je te disais, on me disait, quand j'allais me présenter à des médiathèques ou autres, tu es conteuse. Donc non, je ne suis pas conteuse, je suis lectrice. Et en fait, ça fait quand même encore un peu peur. Soit c'est un art assez élitiste, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les gens, mais ce qu'ils s'en font, mais c'est pas si évident que ça. Alors, vu certaines difficultés, je me suis dit, peut-être que ce serait bien que je sois accompagnée, effectivement, avec des musiciens, voilà. Et je me suis lancée dans la quête d'autres artistes, et j'ai fait des très très belles rencontres. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté un spectacle avec Isabelle Guénier, par exemple, chanteuse, interprète, compositrice, et sur Jacques Prévert. Voilà, ça a été vraiment une aventure folle et merveilleuse. Sur un album jeunesse, hein, aussi, j'ai monté une lecture, on ne va pas dire animée, mais donc avec une marionnettiste et une chanteuse musicienne. Donc, les voix, le jeu, voilà. Voilà, le Covid est arrivé. Donc là, le monde des arts, ça a quand même été très compliqué. Et on venait de donner, je ne sais plus, ça faisait la quatrième présentation de ce dernier spectacle. Et après, mes compagnes sont parties, elles, en live sur d'autres choses. Et je me suis retrouvée seule.
D'accord.
Et là, je me suis dit, Cécile, qu'est-ce que tu fais ? En fait, pour être sincère, j'avais une petite appréhension de reprendre la scène seule. Mmh. Et puis, j'ai eu l'opportunité, puisque j'ai été demandée, seule. Et je me suis lancée. Et là, j'ai retrouvé, en fait, le plaisir d'être seule aussi. Je vais être sincère, hein, j'ai adoré travailler avec d'autres personnes. Mais c'est toujours un peu compliqué dans l'organisation, ceci, cela. Après, il y a les tarifs aussi, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Parce que plus on est nombreux, plus le cachet il est important et puis plus c'est compliqué de le vendre. Alors que seul, on demande bien moins. Et puis finalement, j'ai trouvé que la musique ne me manquait pas trop. J'ai trouvé que j'étais plus dans le texte. Et finalement, les gens étaient tout à fait à l'écoute, réceptifs. Les dernières rencontres que j'ai eues, vraiment, se sont passées à merveille, tout en étant qu'avec la voix. Donc voilà, je sais pas.
Impeccable. Tout à l'heure, on a parlé des supports que tu utilises pour lire. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de lire un texte politique ? On a parlé d'essais tout à l'heure, tu m'as dit que tu lisais beaucoup d'essais. Est-ce qu'il t'est arrivé de lire un texte politique ou un discours célèbre ou une tribune ? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ?
Alors, je trouve ta question super, parce qu'elle tombe vraiment à un moment très particulier, justement, dans mes choix. Je vais te faire la confidence que ce week-end, j'étais à Saint-Brieuc et je me baladais dans la rue, je faisais le marché et tout. Et puis tout d'un coup, je vois un attroupement de gens, justement. Et donc, je m'aperçois que c'est une manifestation en préparation. Et j'entends donc au micro quelqu'un lire. Et là, je me dis « Ah !» J'ai eu envie. Alors, je me suis installée sur un banc en face d'eux. Donc c'était une manifestation pour la Palestine, et donc il y avait des très beaux textes qui sortaient là de cette voix, mais alors excusez-moi, mais très mal lu. Et très mal lu dans le sens où c'était lu, si, effectivement, très, on va dire, scolairement, mais ça remportait pas, quoi. Il manquait quelque chose, il manquait de la vie, il manquait... Et là, j'ai eu envie, ça va. Je me suis vraiment retenue en disant « Non mais Cécile, t'as pas le droit. » J'avais envie d'aller dire « Si vous voulez, donnez-moi le micro, je vais vous aider, on va y aller, on va... » Et j'en suis certaine que même il y aurait eu plus de monde, encore plus. Parce que voilà, quoi, il y a quelque chose qui peut passer. Et là, je me suis dit « Mais ouais, j'ai jamais pensé à ça !» d'aller dans une manif et de... Parce que voilà, là, ils ont lu des poèmes de poètes palestiniens, etc. Donc, ouais, il y aurait... Alors là, oui, je parle en poésie, tu sais. Mais un discours, mais bien sûr. Un ami, un jour, m'a dit, mais tu devrais travailler sur les discours politiques. Oh ! Alors là, j'en avais ri à l'époque. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, je pense que je suis à une période de ma vie où il y a quelque chose qui me titillerait bien, là.
Okay.
Un certain engagement. Alors, attention, je ne lirai pas n'importe quoi.
Oui, j'imagine.
Ça, par contre, là, voilà.
Super. Alors, notre entretien touche à sa fin. Alors, pour finir, est-ce que je peux te demander une faveur ?
Mais je t'écoute.
Alors, en 2022, j'ai publié le tome 2 de la trilogie Algorithme. Et dans ce roman, le personnage principal, perdu dans ses pensées pendant que tout autour de lui va à volo, s'imagine tribun. Justement, on en revient juste à ce qu'on disait juste avant. Et il déroule sa diatribe pour réveiller un peuple endormi face à une dérive totalitaire. Et j'adorerais t'entendre interpréter cet extrait, justement, si ça te dit.
Avec plaisir.
Alors, on t'écoute.
La surprenante inaction des masses face au déferlement totalitaire ne peut que faire résonner en nous les mots de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. L'alambic de la pensée dominante qui distille aujourd'hui de la peur à ingurgiter sans modération convainc un peuple ivre de mots et de chiffres annonnés en boucle par des automates de préférer leur confort de l'obéissance à l'inconnu de la liberté. Cette histoire n'est pourtant pas nouvelle. Elle embaume toute l'histoire des hommes, de l'odeur âcre de ces fumées qui annoncent les grands malheurs. Ni bégaiement, ni simple redite, voici que l'époque nous gratifie d'une anaphore, d'une symétrie quasi parfaite avec d'autres temps qu'on n'a guère le droit de relever sous prétexte de casser le rythme du galop de l'absurde, d'une reprise des mêmes mots qui reviennent hanter nos âmes lorsque nous oublions l'essentiel. D'un trait de plume, nous avons esquissé le croquis de ce voile pudique que nous avons négligemment jeté sur notre honneur et notre dignité. Sans même penser, sans même fermer les yeux, l'espace d'un instant, le temps d'entendre battre au plus profond de nous le pouls des combats de nos tendres aînés. Nous étions certains de vivre dans une fourmilière peuplée de reines fourmis, mais dès qu'un fourmilier de papier s'est approché de nous, nous avons compris que nos couronnes étaient tressées d'épines et que seule l'une d'entre nous possédait un sceptre. Qu'a fait cette reine pour mériter ce sceptre? Qu'en a-t-elle fait? À la première question, l'honnêteté m'oblige à vous répondre rien. Rien profond, absolu. Celui qui étouffe la vie dans les confins des abysses. À la deuxième question, la réponse est tout opposée. Tout ce qu'elle a voulu. C'est à croire que la luminosité de son sceptre a fait perdre la vue à tous les oracles de notre vieille cité. Mais de quoi diable avons-nous si peur pour accepter que l'on nous traite avec la vulgarité d'un touriste qui négocie sous ces latitudes où le dénuement des autochtones l'autorise à les frapper de son immortalité le prix de breloques avec des orphelins décharnés. Le temps que nous vivons est d'une tristesse, mais infinie, une laideur abominable, comme je n'en ai encore jamais croisé dans ma pauvre vie, se présente à nous drapée dans les ornements de la vertu. Désormais, dans ces ténèbres, les mots ont renoncé au sens, à l'étymologie, à leur moi profond, pour n'être plus que des valises que le tyran remplit de sa langue morte. Ainsi, contraindre l'homme, c'est en fait le libérer. L'obliger, c'est prendre soin de lui. Le punir, c'est finalement le protéger. L'enfermer, c'est le rapprocher de l'autre qui subit le même sort. Les candides qui pensent ces temps obscurs comme temporaires se méprennent en plus de s'accommoder de l'immonde. L'obscurité fait la lumière du jour et ne consent à lui céder la place que sous la contrainte des astres. La nuit polaire rêve de voir le soleil oublier la route qui mène à Septentrion. Et c'est là l'implacable nature. Quel corps ne fantasme pas secrètement sa propre éternité? J'ai d'abord sangloté, puis j'ai pleuré à chaudes larmes le monde d'avant. Enfin, je me suis souvenue de son injustice, de sa médiocrité, de sa lenteur, de sa bêtise infinie, de toutes ces fois où j'arrosais mon jardin secret de larmes, de bâillements d'ennui. Je n'en veux plus de ce monde d'avant. Je ne veux pas plus de votre monde d'après. Je veux autre chose. Je veux un présent qui soit le meilleur du passé, avec la quintessence du futur. Surtout, je veux de la beauté. Le seul combat qui mérite d'être mené est celui contre la laideur.
Merci beaucoup, Cécile.
Merci à toi.
Dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter ou t'écouter ?
Je suis sur tous les réseaux sociaux.
D'accord.
Parce que je n'ai pas de site en ce moment.
Cécile Fontaine.
Cécile Fontaine, lectrice publique, je suis sur Instagram. C'est peut-être pas forcément un nom de Cécile Fontaine. C'est l'univers d'Elysses. Okay. Elysses, Cécile à l'envers.
Ok, impeccable. Cécile, merci beaucoup.
Merci Othman, merci à toi de m'avoir invité.
À très bientôt peut-être.
Merci, au plaisir.
Au plaisir.